Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui raconter l'histoire d'un homme, vous, Gino Testa, bonjour.
Bonjour Mathias.
Vous êtes tombé dans les bras de la Vierge Marie en 2008.
Ah, j'aime beaucoup la Vierge, oui.
Et depuis ce jour-là, tout a changé dans votre vie. On va découvrir que l'ingénieur que vous êtes, dans le domaine des hydrocarbures, pétrole, gaz, rationnel, responsable d'études approfondies sur des diverses questions qui ont en lien avec ces questions, va voir sa vie complètement changer en 2008 à la suite d'une conversion fulgurante. Vous nous raconterez cela. Mais auparavant, nous allons, grâce à vous aussi, découvrir une sainte exceptionnelle qui s'appelle Bakita. Bakita, pourquoi cette sainte, vous allez nous raconter son histoire. Comment vous a-t-elle croisée dans votre trajectoire, Paquita?
Bakita, c'est une géante de sainteté. Je l'aime depuis beaucoup parce qu'elle est de la région de Venise, dont je suis originaire en Italie. Et on a organisé 3 jours avec Joséphine Bakita à Saint-Louis-d'Antin l'année passée. Enfin, cette année encore. Mais c'est une géante, Joséphine Bakita. Et les papes l'ont bien compris. Simplement pour montrer un petit peu les choses, déjà Benoît XVI, dans son encyclique Spe Salvi, consacre 2 chapitres à Joséphine Bakita. Le pape François, dans sa dernière lettre sur la sainteté dans le monde moderne, parle de Joséphine Bakita. Jean-Paul II, lors de sa béatification, l'a appelée la sœur universelle. C'est la seule sœur universelle dans l'histoire de l'Église. Il y a un frère universel qui est Charles de Foucault. Elle a une vie extraordinaire, Joséphine Bakita.
On va en raconter quelques éléments parce que c'est vrai que cette petite Bakita a vraiment une vie incroyable. Elle sera à Lourdes, elle viendra à Lourdes bientôt. C'est pour ça d'abord, on aurait dû commencer par là que vous en parlez aujourd'hui.
Tout à fait. Et le 8 février, jour de la Sainte Joséphine Bakita, où il y aura une journée consacrée à Joséphine Bakita, à la paroisse de Lourdes, et avec une relique ex ossibus, c'est-à-dire un petit morceau d'os de Joséphine Bakita.
Donc, ceux qui nous écoutent et qui ont l'occasion d'être à Lourdes à ce moment-là peuvent venir prier auprès de Joséphine Bakita et les grâces seront sans doute innombrables. On
Sûrement,
l'espère,
oui.
on l'espère. Cette petite Bakita, est-ce que d'ailleurs c'est son nom?
Non.
Elle avait oublié son nom.
Bakita était tellement traumatisée, elle est originaire du Soudan. Elle était traumatisée parce qu'elle était enlevée à l'âge de 7 ou 8 ans. Et ce traumatisme a fait qu'elle a oublié son nom. Donc ce sont les gens qui l'ont capturée, qui lui ont donné ce nom de Bakita, qui veut dire la chanceuse. Elle a oublié sa langue, même le nom de son village, qui lui est revenu beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'on sait qu'elle est la région de d'Olgossa au Soudan.
Donc elle naît environ en 1869, je dis environ parce que sans doute qu'on n'a pas de certificat de naissance. Enfin,
Non, mais à 1 ou 2 ans près, c'est ça.
elle naît au Soudan, elle est enlevée, elle est vendue à maintes reprises.
Elle est enlevée à l'âge de 7 ou 8 ans par 2 messieurs qui la revendent. Elle est vendue 5, 6 fois. Et là, elle vit des épreuves terribles. J'en cite deux. À un moment donné, dans une chaîne d'esclaves, une caravane d'esclaves, et il y a une dame avec son enfant qui sont là aussi, et l'enfant pleure. Cela énerve le conducteur de cette caravane, qui à un moment donné prend l'enfant et le fracasse contre un arbre. Et Joséphine a 10 ans quand elle voit ça, donc c'est un traumatisme énorme. Elle a vécu des épreuves terribles. À un moment donné, elle est achetée par un chef des Arabes et ensuite par un général turc. Et là, elle subit une épreuve terrible, l'épreuve du tatouage. Ce n'était pas la seule qui a subi ça. Ça veut dire qu'on la prend avec une autre petite fille. Elle est allongée par terre. Il y a 2 messieurs qui lui tiennent les bras et les jambes. Et une dame dont c'est le métier prend un couteau et lui fait de belles cicatrices. De nombreuses cicatrices. Il y en a une sur le haut de la poitrine, 60 sur le bas-ventre et 48 sur le bras droit. Et là, après, on met du sel dedans. Pourquoi? Pour que les cicatrices deviennent très fortes. Il y en avait peut-être 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui mouraient après ça. Mais celles qui survivaient étaient belles. C'était un signe de beauté d'avoir de belles cicatrices. Et elles étaient revendues plus cher au marché des esclaves. Bakita a subi ça.
Bon, on va pas plus s'étendre sur les souffrances vécues par Bakita, mais on comprend qu'elles ont été très nombreuses, ces souffrances, et très, très, très douloureuses. Elle est donc martyrisée, elle oublie même son nom, elle oublie même d'où elle vient. Mais comment s'en sort-elle? Comment est-ce possible de se sortir de ça, de ce qui est apparemment une tourmente infernale?
En fait, elle est achetée par un Italien, un consul italien, qui s'appelait Calisto Legnani, qui achetait des esclaves pour les libérer. Mais ne sachant pas d'où venait Bakita, il n'y a pas moyen de la libérer. Donc il la garde avec lui, et à un moment donné, il y a un soulèvement au Soudan, et pour éviter des problèmes, il est retourné en Italie. Et en arrivant à Gênes, il était avec un monsieur qui faisait du commerce, enfin qui avait un hôtel au Soudan, et dont la femme était enceinte, qui attendait son mari à Gênes. Et voyant arriver du bateau ces deux messieurs avec une jeune femme noire, a dit à son mari, « Oh, comme tu es gentil, tu m'as amené une babysitter. » Et le consul a compris que Joséphine serait bien dans cette maison, donc il a confié Joséphine à ce couple.
Notre petite Bakita, on comprend là qu'elle est extirpée de ce qui est horrible pour elle, de cette vie de martyr, mais tout de même, de là à devenir sainte, on se dit que là, il y a des pas, il y a des étapes, enfin, puisqu'elle a été déclarée sainte par l'Église en 2002. Donc, quelle a été sa vie, au fond? Qu'est-ce qu'elle est devenue après ça? Comment s'en sort-elle? Comment même rencontre-t-elle Jésus?
En fait, il y a un monsieur qui a eu une grande importance pour Joséphine Bakita, qui s'appelait Illuminato Chicchini, qui était l'intendant des biens de cette famille qui habitait du côté de Venise. Et ce monsieur était ami du curé d'un village voisin, ils avaient le même âge, un curé qui a bien évolué parce qu'il est devenu évêque, cardinal, pape et saint. C'est Saint Pidis. Et Saint Pidis a connu donc Bakita.
Donc Bakita, comment racontez-nous peut-être le moment où elle rencontre le Christ.
Alors ce monsieur Illuminato Chicchini offre un crucifix à Bakita, donc une petite croix avec un personnage dessus. Bakita demande qui est-ce. Elle lui répond, il lui répond, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Illuminato embrasse ce crucifix et l'offre à Bakita. C'est important ce baiser. C'est la première chose qu'elle avait depuis des années, parce qu'au Soudan, quand elle était esclave, elle vivait nue comme toutes les autres. Elle est allée le cacher de peur qu'on lui prenne, et le soir, en cachette, elle allait voir ce crucifix et le regardait plein d'amour. Et comme ce couple est ensuite retourné au Soudan, Illuminato Chicchini, l'intendant, a fait en sorte que Bakita et la petite fille qui était née un peu avant soient placées chez les sœurs canossiennes.
Donc elle entre chez les sœurs, là elle est placée pour être entretenue, nourrie, logée,
pour faire son éducation. Pour faire son éducation parce que la famille est retournée au Soudan pour faire son éducation. Et ensuite la famille revient, l'épouse vient récupérer sa fille et veut récupérer Bakita. Et là, il y a un procès retentissant à Venise parce qu'il y a le représentant du roi d'Italie, le patriarche de Venise qui interviennent. Et en Italie, il n'y a pas d'esclavage et elle ne veut pas partir en disant « Si je pars d'ici, je vais perdre, je ne pourrai plus me consacrer à Dieu, je ne vais plus le connaître. » Donc, elle reste chez les canossiennes et devient religieuse par la suite.
Et donc, elle devient religieuse canossienne.
Elle devient religieuse canossienne.
Elle ne sait ni lire ni écrire.
Elle a dû parler l'arabe parce qu'elle l'avait appris lorsqu'elle était esclave. Mais là-bas, elle ne parlait pas l'italien, elle parlait le dialecte vénitien, en fait.
Qu'est-ce qu'il reste d'elle, outre cette vie que vous nous racontez? Cette vie d'une fulgurance incroyable, hein, parce qu'elle part du martyr pour arriver à la sainteté. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui prouve qu'elle est sainte? Vous pouvez me permettre cette question toute simple.
Elle n'a rien écrit du tout. Elle a raconté son histoire à une autre sœur, par obéissance donc. Et il y a un cahier d'une 80-100 pages qui existe. Hein. C'est le diario, le cahier de Joséphine Bakita. Il y a beaucoup de témoignages à côté de personnes qui l'ont côtoyée. Et puis des choses extraordinaires de son vivant déjà. De son vivant, oui. Il y en a un auquel je pense. Joséphine Bakita elle est allée à Schio, qui est un couvent retiré du côté de Vicenza. C'est une demande du futur Pidis, de ne pas la laisser trop visible à Venise et de la mettre dans un endroit retiré. C'est comme ça qu'elle est venue à Schio, où elle était aide-cuisinière et cuisinière, après sacristine et ensuite à portière. Et là, les gens la voyaient quand elle était portière. Ils n'avaient pas l'habitude de voir des Noirs. C'est la première femme noire qu'il y avait dans la région. Mais les petites filles qui allaient dans le couvent de Schio, chez les Canossiennes, la voyaient et l'aimaient beaucoup. Ils lui léchaient même les mains, pensant que c'est du chocolat. Mais ils en parlent à leurs parents. Et là, il y a un épisode, il y a eu deux miracles du vivant de Joséphine. Il y a une dame. Alors, ce que je dis, c'est ce que m'a raconté une mère canossienne qui est venue à Paris, hein, qui avait un enfant paralysé. Et elle s'est dit peut-être que si Joséphine intervient, il se passera peut-être quelque chose. Mais comment faire? Alors, elle trouve une astuce. Elle va au marché, elle revient et s'arrête chez les canossiennes en disant « Ma sœur, je reviens du marché, mais j'ai oublié d'acheter quelque chose. Vous pouvez garder mon petit ?» Et Joséphine, « Mais pas de problème, laissez-le. » Oui, mais surtout, gardez-le sur les genoux, ne le posez pas par terre. La maman repart, le petit commence à bouger, tombe par terre, et la maman revient, voit son petit marcher par terre, elle devient rouge. Et Bakita, voyant ça, s'excuse. « Excusez-moi, madame, mais quand vous êtes partie, il a commencé à bouger, je n'ai pas pu le retenir. » Bakita ne savait pas qu'il était paralysé, ce petit.
Et donc, le petit n'était plus paralysé.
Voilà,
elle avait des réponses assez fulgurantes à des questions qu'on lui posait. Elle avait du bon sens dans la foi.
Du bon sens et de l'humour.
Et de l'humour.
Du bon sens, oui. Par exemple, il y en a beaucoup d'exemples comme ceci. Hein. Il y a une religieuse qui lui dit « ça doit être beau au ciel ». Et Bakita répond « mais c'est beau aussi de faire la volonté de Dieu sur la terre ». Il y a une religieuse qui lui dit « j'ai un peu peur du jugement dernier ». Et Bakita répond « mais le jugement, c'est nous qui le faisons. Il suffit de faire maintenant ce que l'on aurait voulu avoir fait lorsqu'on passera devant le Seigneur ». Et un épisode fort. À un moment donné, elle a sillonné un peu l'Italie dans les différentes maisons canossiennes pour expliquer ce qu'elle avait vécu. C'est une souffrance pour elle, hein, mais elle se pliait à ça. Et un jour, elle passe, alors je ne sais plus si c'est à Milan ou peut-être à Plaisance. Hein. Il y a un séminariste qui lui demande « Ma sœur, que feriez-vous si vous rencontriez les gens qui vous ont kidnappé, vendu, martyrisé ?» Et Joséphine fait cette réponse fulgurante. « Je me mettrai à genoux, je leur embrasserai les pieds, parce que sans eux, je n'aurais pas rencontré Jésus. »
Réponse assez incroyable. Hein.
C'était son bon patron. Hein.
Qui dépasse même la raison, oserait-on dire, hein, cette réponse. Justement, juste après la pause, si vous le voulez bien, Gino, vous continuerez de nous parler non seulement de Bakita, mais de vous aussi, de votre conversion, parce qu'on a envie de vous entendre. Pourquoi vous continuerez à nous parler de Bakita en lien avec cette phrase que vous venez de prononcer? C'est que vous avez permis, vous avez été le vecteur, oserais-je dire, du voyage de Bakita, de la pérégrination de ses reliques, en Guyane et en Guadeloupe. Et ce fut un moment exceptionnel de rencontre avec le peuple guadeloupéen en particulier. À tout de suite. Aujourd'hui, notre invité est Gino Testa. Gino, on peut d'ores et déjà annoncer que Sainte Bakita sera présente à Lourdes le 8 février prochain.
Le 8 février, ouais. Jour de Sainte Joséphine Bakita.
Voilà. Elle sera présente prête à recevoir les gens qui voudront bien venir prier, vénérer ces reliques.
Oui, ben le programme sera précisé. Je crois qu'il y a une messe le matin, ensuite vénération des reliques, une conférence dans l'après-midi, vénération des reliques et chapelet normalement. Mais enfin, ça sera précisé tout ça.
Et ça se passe à la paroisse de Lourdes, précisons-le, ouais. À la paroisse. C'est le 8 février, retenez bien cette date. Nous avons à raconter l'histoire de Joséphine Bakita, née au Soudan, née en 1869, décédée en 1947, canonisée en 2002, voilà, trois dates. Mais entre ces dates, qu'est-ce qu'il y a de fondamental à redire? C'est combien du martyr elle est passée à la sainteté et combien cette vie est absolument incroyable, avec le bon sens qu'elle mettait dans la foi telle qu'elle l'exprimait aux uns et aux autres. Vous nous avez raconté tout ça. Et à un moment, il y a eu, à la fin de la pause, à la fin de la première partie de cette émission, hein, vous nous racontiez cette histoire de la question, mais Bakita, si vous pouviez aujourd'hui rencontrer vos bourreaux, qu'est-ce que vous leur diriez? Et vous nous avez fait cette réponse. Quelle était la réponse de Bakita à ces bourreaux?
Je me mettrai à genoux. Je leur embrasserai les pieds, parce que sans eux, je n'aurais pas rencontré Jésus.
Voilà une réponse qui est bouleversante. Enfin, on se dit, comment peut-elle dire ça, quoi? C'est impossible, à vue humaine, hein, de pardonner à ce niveau-là. Vous avez emmené Bakita en Guyane et en Guadeloupe. Et je pense que cette phrase, en tout cas la force de la foi de Bakita, même face à ses bourreaux, hein, oserait-on dire, ça jouait un rôle dans ses pérégrinations, vous allez nous le dire. Mais ma première toute petite question, c'est comment se fait-il que vous ayez pu emmener Joséphine Bakita vers les Guyanais et les Guadeloupéens? Comment cela s'est-il fait?
En fait, c'est parti de la Guyane. Il y a une dame de Guyane, dévote de Padre Pio, qui voulait organiser quelque chose autour de Padre Pio dans son diocèse. Donc elle a téléphoné chez les Capucins, qui lui ont donné mes coordonnées. Donc on a pris contact et je lui ai dit, bon, ben, si vous voulez, je peux y aller. Elle est venue à Paris et avant de venir, elle avait vu son évêque, Monseigneur Lafont, en lui demandant l'autorisation, en lui disant, je voudrais faire quelque chose autour de Padre Pio. Et l'évêque lui a dit, mais pourquoi Padre Pio et pas un autre saint, une autre sainte comme Bakita?
Il connaissait Bakita.
Oui, Monseigneur Lafont connaît bien, bien Bakita. Il y a d'ailleurs son portrait dans la cathédrale de Cayenne. Il y a l'église de son village porte le nom de Bakita. Et elle est venue à Paris. Et
elle ne connaît pas cette sainte, elle.
Elle, pas du tout, pas oui. du tout. Elle vient à Paris et je lui remets une image de Padre Pio. Et comme 2 mois après, on devait faire ces 3 jours avec Bakita, je vais faire des images avec Padre Pio d'un côté et Bakita de l'autre. Je me suis dit, s'il reste des images de Bakita, au moins je pourrais le donner à travers de Padre Pio. Et elle prend l'image, elle voit Bakita derrière, sans rien me dire. Et quelques jours après, enfin quelques jours, 2 mois après, après les 3 jours à Saint-Louis-d'Antin, je savais, on m'avait confié à ce moment-là la relique de Joséphine Bakita. Je l'ai appelée en lui disant, ben, si vous voulez, on peut faire quelque chose avec Bakita. Et ça s'est fait comme ça.
Voilà. Et comment ça s'est passé, la pérégrination en Guyane et en Guadeloupe?
On a fait 10 jours en Guyane, 10 jours en Guadeloupe. Je pense qu'il n'y a pas loin de 10 000 personnes qui sont venues sur l'ensemble de ces deux fois 10 jours.
Une ferveur exceptionnelle?
Une très grande ferveur, on était dans des écoles, la cathédrale de Cayenne, dans des hôpitaux, beaucoup d'écoles, hein, différentes églises. On a sillonné la Guyane, on est allé au fond de l'Amazonie aussi, à Papaichton. Mais Bakita parle beaucoup, beaucoup aux gens des îles pour le pardon dont on a parlé tout à l'heure.
Alors, expliquez-nous pour le pardon, pourquoi? Parce que cette vieille blessure, il faut essayer de la penser.
Tout à fait, et ça dépasse les générations. Bakita a été esclave, vendu et l'a pardonné. Et ça parle beaucoup.
À des Guadeloupéens, par exemple.
Tout à fait, beaucoup, beaucoup. Je crois que beaucoup de gens ne la connaissaient pas du tout en Guadeloupe en arrivant. Pour certaines personnes, en tout cas, oui, elle est devenue l'équivalent de Padre Pio. Hein. Des gens téléphonaient, où serez-vous demain?
Ah oui. Voilà pour le récit concernant Sainte Bakita, Joséphine Bakita. Vraiment, retenez cette date, je le redis, le 8 février. Gino Testa, vous êtes un pèlerin de Lourdes, vous aimez la Vierge Marie. Et j'ai commencé tout à l'heure en vous présentant, au début de l'émission, par dire « Vous êtes tombé dans les bras de la Vierge Marie en 2008 ». C'est une façon de résumer finalement un moment clé dans votre existence qui est votre conversion. Vous êtes ingénieur.
Oui, oui.
Assez rationnel donc. Un homme qui produit des études, des réflexions.
Avec les mains dans la pâte, la construction, oui.
Oui, oui.
Construction de grands projets. Hein.
Grands projets dans les hydrocarbures.
Hydrocarbures, des aéroports, des installations pétrochimiques, des plateformes.
Qu'est-ce que vous avez fait durant votre vie, ou une grande partie de votre vie, de la question de la foi, du Christ, de la Vierge Marie? Ça existait dans votre vie?
J'ai toujours eu une dévotion, un respect, une dévotion même. J'ai toujours aimé l'Église, les certains saints, la Vierge, mais je me disais plus tard. Je trouvais plus intéressant de faire des grands projets, apporter du progrès matériel dans différentes parties du monde que de la spiritualité.
Qu'est-ce qui se passe en 2008 pour vous?
Alors en 2008, je vais en Italie au mois d'août, parce que j'avais une cousine qui organisait des pèlerinages à Mezzogiorgio et un chez Padre Pio. Et voyant les papiers qu'elle avait préparés, je lui demande qui est-ce qui vient. Elle m'a donné 2-3 noms et je lui ai dit peut-être qu'un jour je viendrai aussi.
Mais vous n'aviez pas l'intention de venir immédiatement?
Un jour, c'est l'an prochain, dans 5 ans, dans 10 ans ou jamais. Voilà, c'était un jour. Et ça, c'est au mois d'août. Et au mois de septembre, je reçois un appel à mon travail. Un monsieur me dit « Je sais que vous allez à San Giovanni Rotondo. » Je ne connaissais même pas le nom. Et il me dit « Padre Pio ». Là, je comprends. Il me dit, je sais que vous allez là-bas et comme j'y vais aussi, on pourrait peut-être y aller ensemble. Je lui dis, écoutez, j'ai rien prévu, je vous rappelle demain. J'appelle ma cousine en lui disant qu'un monsieur m'avait appelé. Et elle me dit, c'est un prêtre du Congo qui nous accompagne. J'ai regardé mon emploi du temps, je pouvais y aller. Donc je le rappelle en disant, bon, ben, j'y vais, on voit comment on fait. Et au mois de septembre, on part. Et le 10 septembre, on monte dans le bus à 6 h du matin, là, du nord de Venise, pour descendre vers San Giovanni Rotondo. J'entends ma cousine dire, le Seigneur nous fait deux grandes grâces, on a deux prêtres avec nous. Je me suis dit, elle est gonflée, moi j'aurais jamais osé dire ça. Elle nous donne des chapelets, on prie, des feuilles de chant, on chante. Et à un moment donné, je me mets à rire en disant, si mes collègues de travail me voilà en train de chanter, bon, je suis là, chantons. On s'arrête à Lanciano, où il y a le miracle eucharistique. C'est important le miracle eucharistique. Et moi, je ne suis pas allé me confesser, je suis resté au palais communier. Ça faisait 45 ans que je ne m'étais pas confessé. Hein. Même si j'avais une dévotion à la Vierge, enfin une sympathie sincère et réelle. Hein. Mais j'étais un peu perturbé de voir tous ces gens aller communier. Est-ce que je me suis trompé? Mais ça n'a pas été plus loin que ça. Et ensuite, on est monté dans le bus. Et là, ça a été là, j'ai une grande grâce. C'est après où j'ai mis les mots. C'est comme si on m'avait dit, dans 30 secondes, tu es mort, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Et là, j'avais compris que j'avais tout loupé.
C'est un peu dur vis-à-vis de vous, quand même.
J'avais fait de grands projets à l'export, fait de grandes choses comme ceci, mais j'avais loupé par rapport à Dieu. Alors je savais que c'était important, et j'ai bêtement, j'ai mis ça de côté. Je me suis vu jusqu'à la fin de ma vie, et au-delà de ma vie, pour l'éternité, une éternité, dans un, par ma faute, dans une froideur, une tristesse, une solitude. Alors je savais, l'idée de changer même m'a même pas effleuré. C'était définitif au-delà de ma vie. J'étais comme ça pendant un quart d'heure et subitement, 2 secondes, je me suis retrouvé converti. Voilà. Et ensuite, il y avait encore 3 quarts d'heure de route entre cet endroit de l'autoroute et San Giovanni Rotondo. Et toutes les minutes, je disais, en italien, on dit che roba. C'est quelle chose, quel truc, che roba, che roba, che roba, 10 fois la minute jusqu'à San Giovanni Rotondo.
Et Gino Testa, lorsque vous êtes rentré plus tard au bureau, retour de donc ce passage-là, cette période, cette parenthèse, vous n'étiez plus le même,
Ah, mais moi, il y a
forcément.
avant et après, hein, c'était le 10 novembre. Mais à San Giovanni Rotondo, ça c'est anecdotique. Hein. Il y a un monsieur qui me demandait ce que je pensais de la nouvelle église San Pio, qui plaît à certains, qui ne plaît pas à d'autres. Alors le matin, avant le petit déjeuner, je suis allé voir. Et en passant devant le couvent, c'était 6 h du matin, donc il n'y avait personne hein, sur ce grand parvis à San Giovanni Rotondo, devant l'église. Je sens un parfum. Donc je tombe à genoux et je dis, je vous salue Marie, en me disant, je vais en dire 10, et ensuite le parfum va disparaître. Donc je dis une dizaine et le parfum disparaît. Alors, ce n'est pas très important, c'est un petit signe. Ce que je trouve plus important que ça, c'est que dans la bibliothèque de Padre Pio, que l'on voit au couvent, il y avait différents bouquins et j'avais vu La Motte au Carmel. Et lorsque j'étais adolescent ou étudiant, hein, j'avais pris ce bouquin, j'avais dû lire une quinzaine de pages, j'avais rien compris du tout. Et des années après, je reprends ce bouquin, je le lis en me disant, alors je ne sais pas si j'ai compris, mais je dis, mais c'est comme ça, c'est vraiment ça. Et ça, je trouve que c'est plus important que le parfum, voilà, enfin plus significatif.
Pour les quelques minutes qui nous restent dans cette émission, Gino Testa, j'aimerais quand même vous interroger sur Lourdes. Pourquoi êtes-vous aussi attaché à Lourdes également? Parce que nous ne l'avons pas dit, on aurait dû le dire avant, plus tôt dans cette émission. Mais là aussi, quel est cet attachement que vous nourrissez pour Lourdes? Pourquoi?
J'ai toujours une dévotion à la Vierge, mais pourquoi Lourdes? En fait, ça vient de Padre Pio. Pour moi, le testament de Padre Pio, c'est aimer la Madone et faites-la aimer. Restez toujours le rosaire, mais aimez la Madone et faites-la aimer. C'est le testament de Padre Pio et c'est un bijou, cette phrase. C'est Saint Thomas d'Aquin qui avait dit que pour lui, les commentaires de l'évangile de Saint Matthieu par Saint Jean Chrysostome était plus important que tout Paris. Et je crois que cette phrase de Padre Pio, Aimez la Madone et faites-la aimer, c'est la même chose, elle est plus importante que tout Paris. Hein. Ça remplit une vie, cette phrase.
Donc vous faites aimer la Madone et notamment Notre-Dame de Lourdes.
Alors Lourdes, on va parler de l'hommage floral alors.
Oui.
Voilà. Padre Pio, en 1965, avait demandé à une fille spirituelle d'apporter une gerbe de fleurs à la statue de l'Immaculée, place d'Espagne, à Rome. Et depuis là, les groupes de Padre Pio se réunissent à Saint-André delle Frate, qui était en union proche, très forte avec Lourdes cette année. Hein. Et après la messe, apporte une gerbe de fleurs. Et quand on a entendu ça, on s'est dit, il faut le faire à Lourdes. Et, alors les groupes de Padre Pio ont commencé il y a 3 ans, et il y a 2 ans, 5-6 personnes, ensuite une trentaine. Et maintenant, c'est la famille Notre-Dame de Lourdes, une très belle famille Notre-Dame de Lourdes, qui a pris ça en main avec la chaîne mondiale de prière. Voilà. Oui. Mais Lourdes, c'est extraordinaire, je pense que...
Et donc, c'est la raison pour laquelle cette année, quelques 16 000 roses, je crois, peut-être même plus, enfin, beaucoup de roses ont été justement déposées au pied de la Vierge Marie, à la demande de pèlerins qui voulaient qu'on prie pour eux aussi, hein, parce que derrière chaque rose, c'est une intention, ce sont des prières.
Je crois que cet hommage floral et la chaîne de prières associée, parce qu'il y a une trentaine de pays qui ont répondu avec des gens, des familles, des églises et le sanctuaire de Schio, dont j'ai parlé tout à l'heure de Bakita, qui est en union avec nous. Hein. Je crois que c'est un grand et fervent élan de dévotion populaire envers Marie. Et cette semaine, j'ai pensé à ça, je crois que dans l'Ave Maria de Lourdes, on parle le peuple chrétien. Donc cette Lourdes, cet hommage floral, c'est vraiment le peuple chrétien qui se retrouve derrière Marie.
Merci beaucoup Gino Testa pour ce témoignage. Je rappelle cette date du 8 février. Parce que vous devez rencontrer Joséphine Bakita. C'est vraiment une belle sainte, une sainte qui sans doute devra jouer un rôle important dans votre vie si vous venez le 8 février à Lourdes, puisque elle est là, présente, et elle est proposée à la dévotion de tout un chacun à travers sa relique. Ça se passe à la paroisse de Lourdes. Merci beaucoup. Et vous vouliez rajouter peut-être quelque chose ?
Joséphine Bakita, c'est la sainte libre par excellence. Elle est libre, c'est-à-dire que Dieu opère en elle comme il veut. Et il en fait cette sainte que beaucoup de gens maintenant voient en vrai ou en songe. Il y a beaucoup de grâces qui sont accordées par Joséphine Bakita. Voilà, merci.
Merci Gino.